ça, le monde est crevé.
Donc on va commencer le deuxième cours Bezrat Hashem sur les halakhot de Bichoul, les halakhot de la cuisson pendant Yom Tov. On a déjà fini les halakhot le résumé, si on peut dire, des halakhot de Bichoul, de la cuisson pendant Shabbat. Donc on a pris différents détails, comme le Shabbat, la plata, etc. Beaucoup de détails. Et aujourd'hui on parle de halakhot de Bichoul, de la cuisson pendant Yom Tov. Alors, on a expliqué la semaine dernière qu'à la base, les Chachamim nous préconisent de préparer tout ce qu'on peut préparer la veille de la fête. On le prépare la veille de la fête. Par exemple, Pessah cette année, je crois que ça tombe lundi soir, c'est ça? Donc c'est mardi, mercredi. Donc voilà, cette année par exemple Pessah, les Chachamim nous préconisent, dans la mesure du possible, de tout préparer avant l'entrée de la fête. Mais néanmoins, qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué que il y a quand même des permissions que les Chachamim ont mis. C'est soit dans un cas dans lequel on a oublié, d'accord, j'ai oublié de préparer un plat, ce qui peut arriver, ou soit dans un cas, comme on a expliqué, dans lequel ce que je vais préparer pendant Yom Tov sera plus frais si je le prépare pendant Yom Tov que si je l'avais fait à la veille. Comme un plat en général, c'est toujours
c'est
plus frais.
C'est systématique.
C'est systématique. Non, il y a des plats dans lesquels on ne ressent pas vraiment la différence.
Et puis, quand le lendemain de la fête, c'est Shabbat.
Non, ça, on n'a pas parlé encore.
Oui, mais...
D'accord, voilà.
C'est aussi parti, tu vas pas prendre 3 jours à la
Alors, mais néanmoins, vous comprenez que les Chachamim ont mis le paquet pour insister sur le fait que il faut pas que tout Yom Tov passe à la cuisine. Ah, c'est un problème. Maman, c'est comme ça que c'est écrit en Agmara. Je vais dans la source. Allez-y, bravo.
Mais maintenant, pourquoi prendre ce type de précaution? Puisqu'on a le droit de cuisiner, c'est quoi pour la fête?
Non,
c'est pas bon de prendre des précautions.
Ça se fait pas par rapport à la fête. Parce que les Chachamim se sont dit, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Tu vois, par exemple, cette année, Pessah, c'est lundi soir, ils m'ont dit, bon, je me prends pas la tête lundi, je fais shopping toute la journée.
Bah oui, c'est ça le pays Yom Tov.
Non. Oui, mais là, c'est pas... Si on passe toute la journée dans la cuisine, c'est pas bon.
Ouais.
Où est la fête avant?
Ah oui.
Mais parce avant aussi.
C'est la vérité, il faut le dire aux femmes, c'est pas aux hommes, faut le dire.
Mais lundi, c'est la veille de la fête.
La veille, c'est bien. Oui.
Bah oui, c'est ce qu'on fait.
D'accord. Non, mais il y a des gens, qu'est-ce qu'ils vous disent?
Par exemple, à Shavuot, détente.
Détente. Et c'est pas grave, on aura Yom Tov pour cuisiner.
Veille de Pessah, détente, ça existe.
Non, pas Pessah. Non, mais prendre d'autres fêtes.
Non, pas la veille de Pessah.
Soukhot ou Shavuot. Soukhot ou Shavuot.
Peut-être pas la veille de Pessah, parce que c'est compliqué.
Par exemple, la fin des 2 derniers jours de Pessah.
Voilà, les 2 derniers jours de Pessah. Ah oui, d'accord. Alors, on a expliqué aussi la semaine dernière, voilà, donc ça c'est la dernière halakha, on s'arrête sur ça la semaine dernière. On a dit que Yom Tov, on n'a pas le droit de cuire pour un non-juif. Que la permission de cuire, c'est seulement, ou levado yéasé lachem, comme c'est écrit dans le pasouk, qu'on a le droit seulement de préparer un repas si c'est pour un juif. D'accord? Donc on n'a pas le droit de rajouter dans le. Et donc c'est pour ça qu'on a expliqué que les chachamim ont interdit d'inviter un non-juif pour Yom Tov. Pourquoi? On a expliqué la semaine dernière, de peur que...
C'est très délicat.
Familles, d'accord, les familles mixtes.
Alors, on a expliqué, je vais vous dire, c'est que c'est écrit clairement, d'accord? C'est écrit que N, Shabbat, on a le droit de l'inviter, puisque Shabbat, on va pas cuire, mais Yom Tov, on n'a pas le droit de l'inviter.
Carrément.
Imaginons qu'on ait un cousin, ou marié avec...
Mais c'est ça,
et qui,
c'est
nous, on le cuisine pour le cousin, finalement. Il vient à quelqu'un.
C'est assourd. Ouais.
Oui, mais attends, c'est marqué quelque part qu'il
pourquoi Shabbat
et Yom Tov? Il s'associe à la fortune
non,
du pot, il a mangé ce qui est...
Non, c'est assourd,
c'est
assourd.
C'est quoi la différence au Shabbat et Yom Tov? Pourquoi on a le droit de l'inviter?
Oui. D'accord. Hein? Alors,
quelle est la différence entre Shabbat et Yom Tov? Tu me dis Shabbat, on a le droit d'inviter un goy et pas Yom Tov. C'est quoi la différence?
Oui, alors...
C'est ça, bah oui, forcément.
Alors, je vais expliquer 2 secondes la différence. Alors, ce qui est écrit, c'est que Bedi Avad, a fortiori, d'accord. Si le non-juif est déjà là, on n'est pas obligé de le mettre dehors.
On peut l'anesthésier.
Il pose la question, il dit pourquoi on fait la différence entre Shabbat et Yom Tov. Je vais expliquer la différence qu'il y a entre Shabbat et Yom Tov. C'est que le risque ici, c'est que je vais cuire davantage pour le non-juif. Shabbat, il n'y a pas de risque, parce que Shabbat, on sait qu'on ne cuit pas. Donc c'est déjà préparé avant. Yom Tov.
Mais puisqu'on a le droit.
Non, on n'a pas le droit. Non, c'est une erreur. On n'a pas le droit. On a le droit. Non, pas du tout. Attendez. On n'a pas le droit. C'est écrit que Mlechet Ochel Nefesh. Ça veut dire tout ce qui est préparé, tout ce qui est pour manger. On a le droit de préparer. Hu Levado Yéasé Lachem. Ça veut dire qu'on a le droit de préparer uniquement si c'est Lachem. Ça veut dire quoi Lachem? Ça veut dire que c'est pour nous. C'est qui pour nous? C'est pour le Ham Israël. C'est-à-dire qu'on n'a aucun droit de cuisiner pour un non-juif. C'est assourd.
Bon, mais tu connais les meilleurs juifs, de toute façon, ils font toujours plus pour 10, quoi qu'il
d'accord.
arrive.
Oui.
Donc, il n'y a pas de...
Moi, je vous explique la Xéra. Après, à vous de savoir quel est le Bedi Avad. Ça veut dire qu'on n'a jamais le droit de rajouter de rajouter, de cuire davantage pour un non-juif. Maintenant, si je cuis beaucoup, et que Bediavad, il y a un cas fortiori, comme a dit mon père, il y a Chiloul Hashem, etc., c'est l'histoire de famille, Bediavad, bon, si on est déjà dedans, on va prendre, d'accord ? Mais les Khatrila, on fait attention à ça. Si on peut l'inviter à un Shabbat, c'est mieux de l'inviter à un Shabbat que de l'inviter à un Yom Tov. Oui, voilà. Eh oui, je sais, malheureusement,
c'est comme ça. Il y a l'air de famille, ça.
Alors, mais attendez, c'est pas fini. Et ça, c'est un cas encore plus compliqué. Ça, je m'attends à recevoir des pierres. Alors, c'est écrit comme ça. C'est écrit que un moumar, c'est quoi un moumar ? Un moumar, ça veut dire une personne qui... Non, un moumar, c'est une personne qui... Une personne qui... C'est plus qu'un renégat. Alors, là, il dit, c'est un moumar le chalel Shabbat de Pharesia. Un moumar, c'est une personne qui a fait plusieurs fois une avéra, et que quand on lui dit, cette avéra, tu n'as pas le droit de la faire, il dit, j'en ai rien à faire, je la fais quand même. Donc, on a des gens qui sont, Dieu préserve, moumar le chalel Torah Kula, c'est-à-dire des gens qui n'ont rien à faire de toute la Torah, bon, d'accord. Mais on a des gens qui en ont à faire de la Torah, mais par contre, pour être mechalel Shabbat, ils vont vous dire ouvertement qu'ils n'en ont rien à faire de Shabbat, et Befaresia ouvertement. D'accord. Alors, écoutez bien. Ce moumar, qui est une personne qui est moumar, ça veut dire qui est mechalel Shabbat, qui transe le Shabbat Befaresia de manière publique, et qui sait que c'est interdit et qu'il le fait quand même.
C'est-à-dire d'accord. Qu'avec la Kavana, c'est une...
Avec la Kavana, qu'il n'en a rien à faire. C'est lui prendre, mais qu'il n'en a rien à faire, il ne peut pas se prendre la tête, il sait que c'est ça.
C'est par insolence.
D'accord. Alors si, c'est par insolence.
Par insolence.
S'il le fait par insolence, écoutez bien, par rapport à ça, il est considéré comme un non-juif. Et on n'a pas le droit de cuisiner pour lui pendant Yom Tov.
C'est par insolence. Vous mettez d'accord. À table à ce moment-là.
Ouais. On est d'accord ?
On en connaît, hein.
Alors, et je vous dis même la question qu'il pose ici, il pose une question ici qui a été posée donc à plusieurs sites Eliezer, Maramchik, etc. C'est si vous avez un traiteur, parce qu'à l'époque vous avez des traiteurs qui travaillaient Yom Tov. C'est-à-dire les gens ils disaient bon bah je viendrai, je veux qu'il soit frais, donc je viendrai chercher le repas. Donc ils travaillent, d'accord, ils travaillent, mais il s'est déjà fait payer avant. Mmh. C'est-à-dire il va livrer une nourriture fraîche.
Comme dans les hôtels.
D'accord ? Comme dans les hôtels, exactement. Et le problème, c'est qu'il, lui, il a aucune idée à qui il livre. Il a aucune idée à qui, donc s'il va... Eh ben oui, s'il va se retrouver...
Tu veux dire, ou va...
il a aucune idée pour qui il est en train de cuisiner.
Il peut pas cuisiner pour un moumar.
Peut-être qu'il a cuisiné pour un moumar. Alors, pour un juif, pour encore, à la limite, il pense que c'est pour un juif, parce que c'est pour la fête, et encore. Mais peut-être qu'il va cuisiner pour un moumar. D'accord, alors il dit ici qu'il chale chez la Tracham, c'est très compliqué, il y a beaucoup de chez le Tchouvot, j'ai dit 5 ou 6 chez le Tchouvot qui parlent de ça, il faut demander à un Tracham parce que c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Ça veut dire qu'il faut s'efforcer de tout cuire avant parce que sinon on rentre dans un vrai problème. Voilà. C'est écrit clairement dans Shulchan Aruch que cuisiner pour quelqu'un qui ne croit pas entre guillemets au Yom Tov et qui le dit ouvertement, ben c'est pour ça il est considéré comme un non-juif. D'accord ? Il y avait plusieurs.
C'est même pire que ça parce qu'il est juif idolâtre.
Non, c'est pas idolâtre.
Alors ?
C'est qu'en fait on a le droit de cuisiner pendant Yom Tov seulement pour une personne qui croit au Yom Tov. C'est un peu logique. Le Yom Tov,
ça veut dire
qu'il dit je crois au Yom Tov et je crois à la fête.
Mais s'il le pratique d'accord. Pas, s'il est même.
Non, il y a ne pas pratiquer et il y a être mouma.
Voilà.
D'accord.
Ah, c'est pas pareil.
Il y a, dans le Shulchan Aruch, dans le Siman aussi qui parle de tout ça à la Chot, on a ce qu'on appelle un moumar léachis et moumar léteavod. Ça veut dire, on a une personne qui est renégat, enfin, renégat, vous avez traduit sur renégat. Léachis, ça veut dire pour embêter Dieu, c'est-à-dire, j'en ai rien à faire.
Ah,
on a un moumar léteavod, ça veut dire qu'il
fait
par
choses.
Par plaisir. Non, par plaisir.
Attends, je comprends pas la différence.
J'y crois pas.
Non, parfait, ça le printemps de faire
c'est lui qui dit, j'y crois pas.
Honnêtement, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de moumar, parce qu'aujourd'hui, la majorité des gens qui sont pas pratiquants.
Moi, j'ai entendu à la radio des...
C'est des gens qui... Non, mais, aujourd'hui.
On en trouve, les chilonimes, vraiment.
Non, attendez.
Volontairement.
Non, mais volontairement, mais ils ont pas eu d'éducation religieuse, c'était éduqué comme ça.
Alors, on leur pardonne.
J'ai pas dit qu'on leur pardonne.
En Israël, c'est difficile d'avoir
mais je suis en train de dire, c'est difficile de leur donner une...
Un Israélien, quand même, il a toujours à l'école.
Excusez-moi, je vais vous donner un exemple. Prenez quelqu'un du tiers-monde. Et tu lui dis, bon, dorénavant, à partir d'aujourd'hui, tu te comportes comme une personne civilisée. Tu lui expliques qu'il faut te comporter comme une personne civilisée. Il arrivera pas.
Pourquoi il aura du mal?
Bah parce qu'il n'a pas été éduqué dans ça.
Les chidonim en Israël sont des gens qui idéologiquement sont contre la religion.
Non, il y a très peu, non. Il y a ceux qui étaient, et même, c'était ça après le Shoah.
À l'école en Israël, quand même, ils avaient une éducation un peu religieuse.
Pas du tout. Non, bah, d'accord. Alors, on continue. Donc maintenant, il continue pour la lachot de Yom Tov. Toujours pour la lachot de Yom Tov.
Oui.
Non, j'ai pas dit que c'est cachère ce qu'ils font.
Non, mais je suis pour trouver des circonstances atténuantes.
Hein. Non, c'est cachère les atténuantes. Attendez. C'est pas des gens qui ont décidé de leur propre gré de se révolter contre Akadash Baoukou. Et n'oubliez pas que la majorité des parents des chiloniques que vous voyez en Israël, des Ashkenazim, c'est des gens qui sont passés par la Shoah.
C'est
donc on peut pas les juger.
Bon. Je juge pas du tout. Hein.
Ok, alors je continue. Maintenant, on parle toujours d'Alachot et Yom Tov. C'est bon, tout le monde est là ?
On les juge pas, mais ils se font démouvoir quand même.
Non, c'est pas Moumar, non. Moumar, c'est une définition à la rite très forte, hein.
Oui, elle est trop forte.
Elle est très forte, Moumar. Ils sont pas religieux. Et d'ailleurs, en passant, vous avez parlé de Chiloni. Alors, une fois, il y a quelqu'un qui est passé, une fois, il y a quelqu'un qui est passé devant le Ravi, et qui lui a dit, je suis un juif Chiloni. Ça, il lui a dit. Le Ravi, il a dit, dans mon dictionnaire, il n'existe pas le mot Chiloni. Moi, je connais seulement des juifs qui sont pas encore Shomer Torah et Mitzvot.
C'est beau.
Il y a une idéologie derrière. C'est quoi Chiloni? Chiloni, qu'est-ce qu'on a dans le mot Chiloni? On a le mot Chol, profane. C'est, comment je peux me définir quelqu'un de profane, Chazé Shalom? Je peux dire comment? Je ne sais pas encore.
C'est les mots modernes aussi. Hein.
Alors.
Chiloni, de tradition laïque en Israël.
Ouais, laïque. Laïque, ça veut rien dire.
À Levaille, qu'on est un pays laïque, parce que laïque, ça veut dire seulement.
Pas anti-religieux. Voilà.
C'est pas anti-religieux, ça veut dire que.
C'est voilà, pas en France, là, c'est pas laïque, hein, on n'a pas un pays laïque. Alors maintenant, on va parler du Eruv Tafshilin. D'accord, on va parler de différents détails du Eruv Tafshilin. Bon, cette année, on va pas être concerné, d'accord. Après ça, on va pas être concerné, mais on est concerné de... Quand c'était la dernière fois qu'on a fait le Eruv Tafshilin, bah, c'était les fêtes de...
Les dernières.
Tishri, cette année, c'était quand cette année
hein?
On a eu trois jours.
D'accord. Bon. Donc on doit faire le Eruv Tafshilin. Alors c'est quoi le Eruv Tafshilin? À quoi sert le Eruv Tafshilin? Alors, le Eruv Tafshilin, c'est quelque chose que les Chachamim ont instauré comme ça. Écoutez bien. On a un problème, c'est que les Chachamim ont dit... Ça ne se fait pas de préparer pendant Yom Tov pour Shabbat. C'est-à-dire de préparer pendant Yom Tov pour Yom Tov, je comprends. Mais quand je préparais la nourriture vendredi et que je préparais pour Shabbat, c'est quelque part un manque de respect envers le Yom Tov. Ça se fait pas. Yom Tov va dire, attends, dis-moi, tu prépares chez moi pour l'autre? T'as pas honte?
T'arroses le jardin du voisin.
Mais avec mon eau, tu vois. Ça se fait pas. Alors c'est pour ça que les Chachamim ont instauré le Eruv Tafshilin. Alors je vais expliquer ce que c'est le Eruv Tafshilin. Le Eruv Tafshilin, c'est que les Chachamim ont demandé de préparer Tafshil ou Pat. Ça veut dire un plat plus du pain. Alors quand je dis du pain, ça peut être la matzah. Donc par exemple, on peut imaginer une challah et un œuf cuit.
Prêt à manger.
D'accord, oui. Parce que sinon ça ne rentre pas dans la définition de Tafshil. Et je vais vous expliquer c'est quoi la logique. La logique est très simple. C'est qu'en fait, la technique juridique qu'on va utiliser ici, c'est qu'on va expliquer qu'en vérité, moi, mon repas, j'ai déjà commencé à le préparer. Je fais que vendredi, je vais juste le finir.
Je vais rajouter dessus. Ouais, mais d'accord, des fois, le rajout, il est géant, hein.
Attendez.
Non, mais...
C'est une technique, je vais expliquer.
Ça fait un peu
la technique...
Cinéma.
Non, mais attendez. C'est quoi le but de la technique?
C'est une ruse, plutôt.
Ouais, c'est...
Mais c'est quoi le but de cette ruse? Le but de cette ruse, c'est très simple. C'est que quand les gens... C'est que quand la maîtresse de maison va préparer le repas pendant donc vendredi, et qu'elle verra ce Eruv Tafshilin, d'accord, en tout cas, qui sera là, il sera visible, parce qu'il doit toujours être là. Si le chien l'a mangé ou la souris l'a mangé, on peut pas cuisiner.
On peut pas le mettre au frigo ou un truc comme ça.
Mais attendez. Quand elle va voir ça, elle va se dire, bon, c'est vrai que c'est psychologique. C'est-à-dire, c'est vrai que je cuisine pour Yom Tov, pour Shabbat, mais on est quand même Yom Tov. Comme ça, elle se rappelle qu'on est Yom Tov et qu'il y a un respect à avoir pour Yom Tov. Parce que sinon, c'est un manque de respect envers Yom Tov. Voilà comment les Chachamim ont instauré. Donc, on va prendre un plat, on va le garder. Et de manière visible, d'accord? Mais il faut qu'il existe toujours au moment où on cuisine.
On le consomme pas.
On le consomme pas. Non, on va le consommer Shabbat. D'accord? Mais ça, c'est déjà un hidour de le consommer Shabbat. Mais la restriction à la chrique, c'est un embellissement. C'est-à-dire, c'est bien le mot consommer Shabbat. Bah, ça serait bien de le consommer puisque, officiellement, c'était le début du repas.
Un œuf dur, c'est pour le temps.
Alors il vaut mieux faire un mauvais héros que quand on arrive devant l'héros, bah c'est pas bon.
Non, bah non, sinon c'est pas bon.
Bah oui, mais c'est pas bon.
Parce qu'officiellement, attendez, c'est le début du repas.
Oui, mais s'il est plus bon.
Alors, la halakha nous dit encore une fois qu'il faut que le plat existe. Il faut que le Eruv Tafshilin existe, soit là, à côté de moi, de manière accessible, jusqu'à que j'ai terminé de cuire vendredi. Après, si il est parti, il est parti. Si quelqu'un l'a jeté à la poubelle, tant pis. Mais on va s'efforcer de le manger pendant Shabbat, d'accord? Et notamment, par exemple, si c'est une challah, alors il y a des gens qui font comme ça, c'est un minak à Shulchan Aruch, c'est qu'on prend la challah, on va la prendre la challah avec laquelle on a fait le Eruv, ou la matzah, on va la prendre vendredi soir, d'accord? On va la mettre dans les deux pains.
Non, mais ça peut être même jeudi, hein,
le quoi?
Le premier jour de la fête.
Oui, oui, d'accord? Alors, on va prendre la challah, d'accord? On va la mettre avec le vendredi soir, donc on va la prendre en tant que les deux pains sur lesquels on fait les l'Echa Mishne. Mais c'est pas ce là qu'on va consommer, d'accord? On va refaire la même chose le lendemain pour le repas de midi. Et si on fait ce déchlichit, c'est seulement à ce déchlichit qu'on la mangera, d'accord, avec du pain, d'accord?
On peut la manger. On n'est pas tenu.
Faut la manger. pas seulement qu'on peut, il faut.
On peut la manger le deuxième.
On sait parce que on dit que comme ça on fait participer au maximum le Shabbat de la mitzvah du Eruv Tefillin. Dans tous les repas, on la fait participer. On va consommer qu'au dernier repas qu'on va faire avec du pain.
Attends, il y a un truc que j'ai pas trop saisi là.
Vas-y.
Ce Eruv, le Eruv Tefillin, on le fait bien avant.
Mercredi, bien sûr.
Avant la fête.
Ouais. D'accord. Bien sûr.
Alors, parce que tu as dit le vendredi soir, le jeudi soir,
sachez néanmoins que si ça vous arrive une fois, Dieu préserve, que vous avez oublié de faire le Hérouv, le Rav de la ville ou le Rav de la communauté, mon père par exemple il le fait pour tous les gens de la communauté, d'accord, il renquitte tous les gens de la communauté, d'accord. Prends une seule fois. Bediavad c'est écrit Bediavad, c'est écrit Gratrel, il faut le faire soi-même et que Bediavad on peut compter. Pourquoi une fois? Pas écrit. Enfin bon, peut-être. C'est pas écrit. D'accord. Alors, non, on le fait, bien sûr, on le fait. Quoi, c'est dans sa responsabilité. Alors, maintenant, écoutez bien. Je vais vous lire dans les mots. Mitzvah al kol echad. Donc ça, c'est là, il reprend les mots du Shulchan Aruch. Mitzvah al kol echad le'arev eruv tefillin. Donc la mitzvah. Comme le Shulchan Aruch dit, c'est que chacun fasse le Eruv Tefillin soi-même. C'est une mitzvah de le faire. Si vous pouvez faire, faites-le. Ça amène la bracha à la maison.
C'est pas la mère de famille.
Et comme ça, non.
Non.
Pas du tout.
Non.
Ah ouais.
Non.
C'est sûr que ça, c'est pas un four ashkenaz, un truc comme ça.
Non. C'est pas la mère de famille qui le fait.
Bah, ça veut dire que si on est 12, il faut 12 ralottes de plus.
Non.
C'est une pour la famille.
Chacun, chaque famille doit le faire.
Par famille.
C'est ce que j'ai dit.
D'accord, oui.
Parce que c'est chacun. Bon, d'accord.
Si ta femme le fait pas, tu veux dire toi.
Le plat, il faut qu'on lui fasse les cuisiner.
Il faut que ce soit un plat cuisiné, oui.
Une boîte de sardines.
Un œuf dur.
Non, la challah, c'est bon. Mais l'œuf doit être cuit.
Un plat et
du pain.
La boîte de thon ou la boîte de
sardines. Non, la challah, il n'y a pas besoin de la cuire.
Non.
Le fait qu'on ne l'ait pas cuisiné nous-mêmes.
Voilà, on l'a acheté, donc elle est cuite d'office.
La challah n'est pas un problème. Mais par contre, pour l'œuf, attention, il faut que l'œuf soit cuit. Parce que la ruse, entre guillemets, qu'on est en train de faire ici, c'est qu'on dit qu'on a déjà commencé à préparer le repas.
Mais le fait, si tu achètes des œufs cuits.
Un poulet.
Ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais, t'as commencé à préparer, ouais.
Il n'y a pas qu'un œuf.
Oui, un poulet, bien sûr.
Une boîte de sardines ou un paquet de saumon fumé, ça le fait.
Un plat cuit.
Quelque chose de cuit. Tafshil, attention.
Fumé, c'est cuit.
Pourquoi vous rentrez dans les problèmes?
Non, parce que ça m'arrivait, moi, en catastrophe, de prendre une boîte de pâté parce qu'on avait peur, on était à la limite.
C'est cuit?
Ben le pâté, c'est déjà cuit.
Je connais pas. C'est cuit.
C'est une charcuterie. C'est pas mal.
Non, c'est pas besoin. C'est pas obligé que c'est toi qui cuise. C'est pas écrit. Non, pas besoin.
Même la challah, tu peux acheter la
bande. La challah, elle est pas cuite.
Je le pensais qu'on pouvait, mais pas le.
Non, il faut s'efforcer de le cuire soi-même.
Non, c'est pas cuit.
D'accord.
Cette permission, elle était faite par qui?
Pas cuit.
C'est à l'époque de Shlomo Ameler.
Mais c'est un peu.
Shlomo Ameler, à l'époque, c'est bien, on avait qu'un.
Franchement, c'est du pipeau.
Quoi?
C'est un peu.
Non, je vais t'expliquer. C'est pas du cinéma, je vous explique. C'est psychologique.
Ouais, puis voilà, bah ouais.
C'est pas non. Non, on fait, hein.
C'est bien,
le roux, c'est
dans notre tradition.
Je vais expliquer, attendez deux secondes. Dans la halakhot de Shabbat de Yom Tov, je vais expliquer ce que...
C'est quoi que c'est religieux?
C'est qu'on a toujours une parade pour montrer.
C'est la halakha.
C'est pas permis.
Alors écoutez bien, messieurs. Oui, attends, je vais expliquer quelque chose, deux secondes. Alors, c'est pas, quoi qu'il en soit, bon, messieurs, deux secondes. Vous pouvez penser ce que vous voulez, c'est vos affaires, ça me dérange pas. Enfin, ça me dérange, mais bon. Mais ce qui est clair, je vais essayer d'expliquer ce qu'il y a derrière la mitzvah de Eruv Tefillin. Ce qui est derrière la mitzvah de Eruv Tefillin, c'est que les Chachamim ne veulent pas que pendant Yom Tov, on a un manque de respect envers Shabbat. Pendant Yom Tov, on a un manque de respect envers Yom Tov pour cuisiner le Shabbat. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer un signe psychologique. C'est quoi le signe psychologique qu'on va faire? C'est qu'on va garder un signe dans lequel la femme va dire, ça veut dire que je n'oublie pas qu'aujourd'hui c'est Yom Tov. Et que si je peux cuisiner, c'est parce qu'il y avait quelque chose. Ça veut dire que je me rappelle qu'en vérité aujourd'hui, j'aurais pas dû cuisiner. Normalement, j'aurais dû cuisiner depuis mercredi. D'accord? Ok, bon, c'est comme ça que Rami moi.
Mais parce que de nos jours, on doit enchaîner 3 jours, c'est une tannée. Il n'y a pas le choix.
Mais à l'époque du Tachin,
c'était
à l'époque de...
Je te m'amène.
4 jours. Parce que tu vas préparer mercredi pour samedi.
2 jours.
Donc mercredi.
Oui, donc on avait 2 jours.
La cam, elle va rester mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et tu dois le manger à Minra. Ça peut même avoir claqué.
À notre époque, les Khamim disent
que nos deux jours, il vaut mieux cuisiner, avant.
Mais ça toujours, même à l'époque de Shlomo Melech, on disait que ce qu'on peut cuisiner avant Yom Tov, pour Shabbat, c'est mieux de le faire avant Shabbat. Avant Yom Tov. Toujours.
Et il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est une autorisation que donnent les Chachamim, et pourtant, tu parles de mitzvah.
De
mitzvah, du
oui, parce que c'est étant donné que c'est une mitzvah des Chachamim.
C'est une coula.
Non, c'est une mitzvah des Chachamim. Et on a des mitzvot qui ont été donnés par les Chachamim.
Il y a une contradiction.
Attendez, vous savez qu'on a, on a 600, on n'a pas 613 mitzvot, Razak.
C'était fermé à côté.
Razak, merci.
Ils n'ont pas réussi à ouvrir.
Razak. Voilà. On n'a pas 613 mitzvot, on a 620 mitzvot.
Celui-là, c'est espèce.
Non, c'est bon, pourquoi?
Non, celui-là, il est espèce.
Et je suis à Radad, non? Pourquoi? Ah, je connais pas ça, ouais. Razak, Razak.
Ça, c'est bien.
Alors,
voilà.
C'est un canular, c'est un canular.
Non, ça j'ai déjà vendu en paquet cher.
Ouais. Cherchez sur Google, vous verrez.
C'est facile.
Tapez Coca-Cola port, vous allez voir tout de suite. Il y a des jeunes hier qui m'ont envoyé un SMS, ils m'ont dit c'est vrai que le Coca y a du porc.
C'est affolé. Qui mange le lait des non-juifs, c'est marqué quelque part, à tous les coups.
Bon, alors attendez, je continue. Donc le concept du Eruv Tavshilin, d'accord? C'est un concept qui a été instauré à l'époque de Shlomo Melech. Je suis en train d'expliquer qu'il n'y a pas 613 mitzvot, et 620 mitzvot. Puisqu'on a 613 de la Torah, et 7 mitzvot, pardon, des Rachamim. Une des mitzvot des Rachamim, c'est Netilat Yadayim, par exemple, se laver les mains. Hein, pourquoi tu laves les mains avant le repas?
Quoi?
Pourquoi tu fais Netilat Yadayim?
On avait un blanc demandé. Non, je crois que c'est de la Torah.
Non,
c'est
bien. Non. Si t'as les mains propres.
Donc pour avoir la kavana. Hein
c'est kavana.
Non.
Ah, je mange pas directement motif.
C'est encore mieux, c'est sur
le purée. Mes mains sont propres. Je viens de me doucher.
Non, pour avoir la kavana de remercier.
D'accord. Hein?
C'est
les 7 mitzvot que les Chachamim ont fait, de la même manière qu'on a 7 lois noachis, de la même manière les Chachamim ont rajouté 7 mitzvot. Et pour répondre à la question de Guy. Comment on peut faire? Vous savez que sur le Eruv Tavshilin, on va faire une bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Asher Kidesha Nu Bemitzvotav et Tivanu. D'accord? À l'Eruv Tavshilin. Alors, c'est une question que le Rambam y pose. Le Maimonide pose la question. Il dit, mais comment on peut faire la bracha Asher Kidesha Nu Bemitzvotav et Tivanu? C'est pas une coula. Comment on peut faire la bracha Asher Kidesha Nu Bemitzvotav et Tivanu? Que Dieu nous a ordonné. Mais Dieu nous a jamais ordonné de faire le Eruv. C'est pas une décision 13 mitzvot, c'est le Chachamim qu'on a rajouté. Alors, qu'est-ce qu'il répond Maïmonide? Non, Maïmonide, dans Mishneh Torah, il dit que Ve'echan Tivanu, où c'est que Dieu nous a ordonné? C'est quand Dieu nous a ordonné, Lotasur Mikol Divrei Torah Asher Yorucha, que tu n'auras pas le droit de t'écarter de tout ce que les Chachamim t'enseigneront. Ça veut dire que, étant donné que nous, quand on fait le Eruv, on va écouter les Chachamim, donc on est en train d'accomplir par ricochet une mitzvah de la Torah. Voilà pourquoi on fait la bracha, Asher Kideshenu Mizetav et Tivanu, à l'Eruv Tavshilin. Pas du tout.
Non.
Pas du tout confus.
Donc on aurait dû dire.
C'est qu'en écoutant les Chachamim, on écoute.
Les Chachamim et de.
Oui.
Tandis que là, on a l'impression que c'est.
Et c'est pour ça que la Gemara dans le traité Horayot nous dit que Chamurim divrei Sofri, mieux terme divrei Torah. Parce que, vous savez, à cette époque-là, il y avait des gens qui se moquaient un petit peu, ils disaient, bon, ce qui est écrit dans la Torah, c'est écrit dans la Torah, mais bon, les rabbins, ça va. D'accord? Et la Gemara là-bas explique, d'accord? Que Chamurim divrei Sofri, mieux terme divrei Torah. Que transgresser des choses qui sont des Chachamim, sur certains aspects, c'est plus grave que ce qui est mis à la Torah. Parce que c'est les Chachamim qui nous permettent d'accéder à la Torah. D'accord? Qui nous permettent. C'est la Gemara, Kana Rahmani. Ah, c'est ce qu'ils ont raconté. Personne dit ça, ça suffit. C'est la Gemara. La Gemara me fourrechette. Chamourim, tu veux rester dans la Torah.
C'est interdit de la Torah de désobéir au.
Non! Je parle Chamourim, tu veux rester dans la Torah. C'est une gravité, c'est très grave d'enfreindre des vrais Chachamim. Une des 7 mitzvot des Chachamim, de la même manière qu'il y a Netilat Yadayim, vous avez le Eruv Tavshilin. Et ça, c'est sans équivoque. Il n'y a aucun avis qui dit qu'il n'y a pas besoin. Aucun.
Mais il y a une contradiction là. Les Chachamim nous disent de ne pas cuisiner. Et si je veux faire la mitzvah des Chachamim, je dois cuisiner.
Non, les Chachamim n'ont pas dit de ne pas cuisiner.
Ils t'ont donné un super truc.
À la base, c'est permis de cuisiner.
Oui.
Mais les Chachamim t'ont dit, comme on a un problème, les Chachamim se rendent compte des problèmes de la génération. Ils disent, on s'est rendu compte qu'il y a un problème, c'est que les gens, à cause de Shabbat, ils vont négliger Yom Tov. Donc il y a un problème. D'accord? Donc il y a un problème de kavod. D'accord? Donc on va cuisiner. Donc soit cuisiner avant, soit faites Eruv Tavshilin, comme ça psychologiquement vous avez un signe qui vous rappelle. Mais c'est pas une coula. Mais c'est eux-mêmes qui ont interdit.
Qui ont interdit quoi?
C'est eux-mêmes qui ont interdit de manger pendant Yom Tov. De cuisiner pendant Yom Tov. C'est eux qui ont interdit ça.
Donc la voie normale c'est de cuisiner avant Yom Tov.
Voilà. Non, y a pas, la voie normale, c'est soit tu cuisines avant Yom Tov, soit tu fais le Rouf Tov Shilin pour cuisiner pendant Yom Tov.
Et celui qui veut cuisiner avant Yom Tov, comme
il n'y a aucun problème.
D'accord, dans ce cas-là,
je ne peux pas faire le Rouf Tov Shilin.
Pourquoi tu peux pas? Bien sûr que tu peux. Non seulement tu peux, tu dois le faire. Essayer de cuisiner.
Mais pendant Shabbat, tu te rends
compte.
Pas du tout.
Dis-le.
Ah oui, non, bien sûr. Pas du tout, t'es pas obligé de cuisiner.
C'est au cas où,
bien sûr au cas où. Qu'est-ce que t'en sais si tu vas avoir des invités, si t'as un imprévu, etc. D'accord.
C'est une assurance.
Voilà. Donc c'est une mitzvah. C'est une mitzvah qu'on fait. Asher kidesh shenu mitzvah tzionu al rouf tafshilin. Alors, je continue. Et ça, c'est important aussi. On avait expliqué, il y a deux semaines, quand on avait expliqué la halakhot de Bishul de Shabbat, d'accord, messieurs, on avait expliqué que... c'est bon, allez messieurs. On avait expliqué quand on avait fait la halakhot de Shabbat que j'ai le droit de mettre un plat, j'ai le droit de mettre une tafina ou une tkeila, hein, j'ai le droit de mettre un plat à cuisiner avec des pois chiches, voilà, juste avant Shabbat, si je suis sûr que le plat ne sera pas prêt vendredi soir et qu'il sera prêt uniquement le lendemain. Vous rappelez qu'on avait étudié ça, oui, je rappelle. J'arrive
complètement cru.
Voilà, complètement cru, mais à condition que vendredi soir, au moment du repas, il ne peut pas être prêt. Il ne sera pas prêt du tout, donc il n'y a pas de risque que je remue, et qu'il va finalement, il va cuire principalement pendant la nuit. D'accord. Ça, c'est une permission qu'on a donnée si le vendredi n'est pas Yom Tov. Si le vendredi est Yom Tov, les Chachamim préconisent fortement, très fortement même, de finir la cuisson du plat avant l'entrée de Shabbat. Oui. Avant l'entrée de Shabbat. Parce que là, c'est un problème. Parce que une cuisson qui démarre Yom Tov et qui finit Shabbat, là, alarchiquement, on rentre dans un autre problème.
C'est pire.
Oula.
C'est très compliqué.
Oui. Oula. Là, c'est un problème.
Non, mais en pratique... J'ai imposé le plat de la dafina.
Il est cuit.
Déjà, il est cuit.
Voilà.
Non, mais sauf que c'est un truc avec un système électrique.
Il n'y a pas de problème, il est déjà cuit. Il va mijoter. Mijoter, c'est pas grave. Mais il est déjà cuit.
Non, mais attends, mais alors quand est-ce qu'il faut commencer?
Parce que lancer un processus pendant Yom Tov qui va continuer pendant Shabbat, c'est écrit que on le permet uniquement Bécharat à Trak. Ça veut dire vraiment lorsqu'on est serré, archi serré.
Donc on ne fait pas de dafina normalement à Shabbat.
Si, tu fais. Il n'y a pas de problème. Tu prépares ta dafina vendredi après-midi. C'est Yom Tov. Mais tu t'arranges pour qu'elle soit cuite déjà à l'entrée de Shabbat.
Pas cuire bien comme il faut.
Non, mijoter c'est autre chose, c'est pas grave. Est-ce qu'elle est mangeable? Est-ce qu'on peut la manger?
Voilà, elle va cramer. Vendredi soir, tu peux pas la manger.
C'est un problème. C'est écrit que c'est permis que Béchat attraque. Voilà.
Mais de toute façon, il n'y a pas eu la même
problème. Non, mais mettre, ça veut dire en pratique, il faut essayer de...
Parce qu'en fait, on veut pas... Je vous expliquer la logique. La logique, c'est qu'on veut pas mélanger Yom Tov et Shabbat. On veut pas mélanger Yom Tov et Shabbat. Ouais, c'est ça la logique. Explique un jour en avant. Alors, j'avais dit aussi que, voilà, ok, quel état on n'a pas dit encore, qu'est-ce qu'il y a, ouais. Ok, alors je finis avec la dernière halakha, messieurs, dernière halakha pour le Eruv Tafshilin, Atafshil ve'apat shel Eruv Zeh, donc le plat et le pain qu'on a préparé, donc rappelez-vous toujours pour le Eruv Tafshilin, il nous faut un plat cuisiné. Ça peut être un œuf, mais quelque chose de cuisiné, et plus du pain. Alors, tsarir chez Yukayamim, ad lesha chez Igman Levachel. Il faut que ce plat et ce pain soient, restent là en nature et qu'ils soient accessibles. D'accord? C'est-à-dire, si par exemple, ils sont enfermés dans un endroit, et que moi je n'y ai pas accès, on a perdu la clé. Elle est tombée dans l'eau, c'est fini. C'est pas bon, il y a un problème. Il faut qu'ils soient Kayamim, mais il faut qu'ils soient accessibles. D'accord?
Au congèle, au frigidaire.
Ah, c'est pas grave, ils sont accessibles.
C'est pas grave.
Ils sont accessibles.
Ah, d'accord. Mais même si on le voit pas, puisque
j'ai. Il n'y a pas besoin de le voir. Non. Il faut savoir qu'il est là. On l'a fait.
Ah, d'accord.
Il faut se rappeler qu'on a fait un signe pour ça. C'est un signe pour ça. Pour se rappeler que on n'est pas là pour enfreindre la kdusha de Yom Tov, mais on le fait parce qu'on veut que le plat soit plus frais pour Shabbat. Mais on n'a pas un manque de respect envers Yom Tov. D'accord.
Et c'est du pain absolument pas maisonnote.
Du pain.
Du pain au bien.
Enfin, pas. Parce qu'il faut les deux composantes d'un repas. Dans un repas, on a toujours. Dans un repas, on a toujours du pain.
Ouais.
D'accord. Et avec un plat. Donc du pain et un œuf, c'est un repas. On peut faire un repas avec ça.
D'accord.
Toujours, il faut les composantes. Parce que, rappelez-vous, c'est quoi la logique? La logique, je dois dire que j'ai déjà préparé un repas et que, à la limite, j'aurais pu me servir que de ça pour faire mon repas de Shabbat. C'est ça ce que ça veut dire. Vous voyez la logique?
Ouais, mais c'est un peu russe quand même, parce qu'avec du pain et un œuf, c'est un repas de deuil.
Et
même.
Pourquoi pour Shabbat, on n'en fait pas deux?
Deux?
De quoi? Deux héros. Puisqu'il y a le vendredi soir.
Pas de question.
Et le samedi.
C'est pour ça que j'ai expliqué qu'on a l'habitude de garder le pain. C'est-à-dire, on va le
oui,
prendre.
Jusqu'à la voilà. Souda chichit.
De garder jusqu'à la Souda chichit. Si vous faites...
Donc il n'y a pas besoin de... Moi, je croyais que c'était le samedi midi.
Oui, parce que Souda chichit, vous en faites comme aussi.
Bah oui.
Donc le dernier repas auquel on se motive.
Surtout chez Chabad, il va pas faire petit. Attends, faut le savoir, hein.
D'accord. Voilà, je tiens encore autre chose. Alors, oui, encore un autre point. D'accord. Encore un autre point, messieurs. Je finis avec la dernière halakha. Donc, si on a donc deux Yom Tov, alors c'est pas le cas en Israël, puisqu'en Israël, ils ont toujours vendredi Shabbat. Il n'y a pas de jeudi, vendredi Shabbat. Mais quand on est en Israël, ça peut être le cas seulement pour Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on a jeudi, vendredi, Shabbat. Parce que vous savez que le premier jour de Rosh Hashanah ne peut jamais tomber ni un dimanche, ni un mercredi, ni un vendredi. Mais il peut tomber un jeudi. Donc on peut avoir jeudi, vendredi, Shabbat. D'ailleurs les Israéliens, il ne faut pas leur parler. Quand c'est trois jours de fête pour eux, c'est horrible.
Ouais, alors, c'est... Ça fait que... la plage, ouais. Barbecue, ouais.
Trois jours, ouais, c'est énorme. Ah, pour eux, c'est énorme. Nous, on est rodés déjà. Alors maintenant, écoutez bien. Donc si maintenant, donc on va parler pour nous qui sommes habitants de Khoutz Laaretz, ou bien pour les Israéliens quand c'est jeudi, vendredi, Shabbat. C'est bon. Donc, on va faire le Hérouf quand ? On va faire le Hérouf Tafshin, on va le faire, on a dit mercredi. D'accord. Bien que j'ai préparé le Hérouf mercredi, je n'ai pas le droit de cuire jeudi. Il faut attendre vendredi pour cuire. D'accord ? Parce que
au
il faut... Oui. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, de manière psychologique, il faut clairement montrer que je le fais pour Shabbat, d'accord ? Et que c'est pas un signe de manque de respect envers Yom Tov, mais c'est parce que le Shabbat approche et qu'on se prépare à accueillir la reine Shabbat. C'est ça que c'est écrit en Shulchan Aruch. Et c'est pour ça que c'est préconisé aussi quand vous faites vendredi, c'est préconisé, on demande aux maîtresses de maison de préparer le repas le plus près possible de Shabbat. Bien sûr, si elle n'a pas le choix, elle a un imprévu, elle peut le préparer depuis vendredi matin. Mais si elle peut préparer vendredi après-midi, d'accord ? C'est mieux. Parce que il faut qu'on montre que je ne le fais pas en signe de manque de respect envers Yom Tov, mais je le fais parce qu'on doit se préparer pour accueillir la reine Shabbat. Ça, c'est écrit dans Shulchan Aruch. Voilà. Donc, on a fait un petit peu le tour rapidement des halakhot de...
Attends.
Ouais. Quoi ?
Allez, sur ce, bien que bonne date, Shabbat Shalom.
Tu vas faire le roux ou pas ? Viens, je te montre, c'est le roux.
Non, je sais.